بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Chers frères et sœurs en islam, toutes les louanges reviennent à Allah Azza wa Jal qui nous donne la possibilité de nous réunir ce soir pour étudier quelques versets du Coran. Le programme va durer, Inch'Allah, 25 minutes. Et au bout de 25 minutes, Inch'Allah, on peut consacrer à peu près 10 minutes pour les échanges à propos des versets, s'il y a d'éventuelles questions-réponses. Et on va consacrer quelques minutes également pour les vertus du jeûne de Ashura qui, pour l'île de la Réunion, commence demain. Et pour la métropole, ils ont déjà jeûné le 9e aujourd'hui. Nous avons lu des versets de la sourate Al-Muzammil. Al-Muzammil est une sourate qui se trouve donc dans le 29e juz, dans Tabarak al-Ladhi biyadihi al-Mulk. Et sourate Al-Muzammil, comme la majorité des chapitres du 29e juz du 29e sipara, c'est une sourate makkiya. Et on a beaucoup insisté dans le passé sur l'importance des sourates makkiya. En fait, tous les versets qu'on a vus en tafsir depuis bi'idhnillah, depuis très longtemps, c'était essentiellement des ayats, des versets makkiya. Et on a eu l'occasion, à chaque fois qu'on commence un nouveau chapitre, de rappeler que nous, en tant que musulmans en France, dans un pays occidental et ainsi de suite, avec un brassage de culture et un contexte qui ne nous invite pas trop vers la spiritualité, mais bien au contraire, qui nous inculque des valeurs, on va dire, pas très spirituelles et où la pratique de la religion parfois est un petit peu complexe. Bref, dans notre contexte, il est très, 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 très important de se rattacher aux versets makkiyah. Les versets madani, les versets qui ont été révélés à Madina, mashallah, c'est des versets remplis de foi, de iman, de vertu et d'action. Il y a tout ce qu'il faut, bien sûr, pour le mu'min. Mais pour les sourates makkiyah ont cette spécificité qu'Allah Azza wa Jal les révèle dans un contexte extrêmement complexe, extrêmement difficile, où le croyant lutte pour garder sa foi et le mu'min fait énormément de sacrifices pour vivre la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah au quotidien. Donc ça, c'est une des spécificités des sourates makkiya et c'est vraiment ce dont nous avons besoin. C'est vrai qu'en ce moment, avec la pandémie et tout, on n'a plus beaucoup de discours islamophobes, heureusement, mais attendez que, inshallah, ça se termine très bientôt et on risque de retrouver nos vieux démons, comme on dit. Et c'est là qu'on a vraiment besoin de ce genre de verset « Wasbir ala ma yaquluna » وَهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. Ça, c'est juste avant le verset qu'on a lu ensemble. On est dans le verset 10 où Allah Azza wa Jal demande au prophète alayhi salat wa salam de faire preuve de patience. De faire preuve de patience face à qui et face à quoi? Ben, faire preuve de patience par rapport à ce que les Quraysh osent dire à propos de sa mission. Tout ce que les Quraysh, tout ce dont les Quraysh accusent le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être un menteur, d'être un sorcier, d'être à Mecca pour essayer de prendre le pouvoir ou d'avoir d'autres objectifs et ainsi de suite. Notre prophète, Allah Rabbul Izzah, notre Seigneur, demande à son Al-Habib alayhi salatu wa sallam de se montrer patient. Et en commentaire, les Mufassirin, rahimahumullah, explique que les Sahaba, ridwanullahi alayhi majma'in, s'étaient inspirés de la patience du prophète alayhi salatu wa sallam qui, à Mecca, avant l'islam, était l'homme parfait, celui qui était respecté et aimé de tous. Le surnom, c'était Al-Amin. Et quelle trahison, quelle douleur pour Muhammad alayhi salatu wa salam à partir du moment où il s'est tenu sur la montagne de Safa et a invité les gens vers la ilaha illallah et vers le fait que c'est lui qui est Muhammad Rasulullah, les mêmes personnes qui l'aimaient, les mêmes personnes qui le soutenaient, qui l'admiraient, ses oncles, Abu Talib, et a toujours été de son côté bien sûr, d'autres comme Abu Jahal ou Abu Lahab, qui étaient admiratifs de ce jeune homme, qui était la fierté de Quraysh, du jour au lendemain, ils sont devenus ses pires ennemis, et ils l'ont accusé, Wallah al-Musta'an, des pires des choses, et le prophète alayhi salat wa salam était très affecté par ce changement de comportement, alors qu'il prêchait la vérité. Et les savants disent également, il n'y a rien de plus difficile et de plus douloureux pour une personne que de se sentir trahi par les gens qui l'ont toujours aimé, et d'autant plus quand il s'agit de la famille. Quand le prophète alayhi salat wa salam, pendant le hajj, il passait de camp en camp, il passait entre les tentes des Arabes de toute la péninsule qui étaient venus accomplir le hajj pour les inviter vers la ilaha illallah. On est dans la période makkiya. Abu Jahl, son oncle, et qui était également un des Zouama, un des notables de Quraysh, respecté dans toute la péninsule arabe, il le suivait comme son ombre. Et là où le prophète, alayhi salat wa salam, délivrait le message du tawhid, Abu Jahl venait et disait aux gens, ne l'écoutez surtout pas. C'est mon neveu, il dit n'importe quoi, c'est un menteur. Imaginez la douleur de ce prophète, de notre prophète, alayhi salat wa salam. Et à plusieurs reprises, on le retrouve dans la sourate Al-Qalam, Noun, et dans d'autres versets, où il y a des accusations, comme on parlait de la sourate Al-Qalam, lorsqu'ils ont accusé le prophète, alayhi salat wa salam, d'être majnoun, d'être fou. Allah Rabbul Izza dit que j'atteste que ce n'est pas vrai et que bien au contraire, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, il y a énormément d'enseignements retirés en termes de soutien psychologique, de force. On ne parle pas de soutien psychologique, mais on parle de force psychologique du croyant qui doit découler directement des versets. Quand l'homme le plus opprimé au monde, Al-Habib alayhi salat wa salam, reçoit des encouragements directement par le wahy de la part d'Allah azza wa jal, le prophète alayhi salat wa salam croit en la promesse d'Allah. Lorsqu'Allah dit au prophète alayhi salat wa salam, tu as le meilleur des comportements, on t'a promis telle et telle chose, et que sois patient, et ainsi de suite, le prophète alayhi salat wa salam croit sans le moindre doute qu'Allah azza wa jal va l'honorer, qu'Allah va l'élever et qu'Allah va le protéger des accusations et du mal des gens. Le croyant se doit de trouver et là on utilise le terme réconfort, ce réconfort psychologique qui est avant tout un réconfort spirituel à travers les versets, et se dire que quelle que soit la situation que je vis, ça peut être une situation d'oppression, comme c'était le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, ou alors si on change totalement de registre et on va vers les situations d'épreuve, pour rejoindre un peu le discours de mardi concernant les ibtila, les difficultés, les maladies, les épreuves de ce dunya, le mu'min croit en wa'adullah, aux promesses d'Allah. Et inna Allah la yukhliful mi'ad, Allah ne trahit jamais ses promesses. C'est-à-dire qu'Allah promet que, si on revient au verset concernant l'épreuve, « وَبَشِّرْ الصَّابِرِينَ بَشِّرْ » annonce la bonne nouvelle aux patients. Ceux qui, dans les épreuves, disent « إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ » Allah leur promet « أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتُمْ رَبِّهِمْ رَحْمَةُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ » Le mu'min prend ces versets et il les met dans son cœur et il se dit que si Allah m'a promis que, en compensation de mon acceptation et de ma satisfaction pour ces décrets, même les plus difficiles, Allah m'a promis sa clémence, m'a promis que je serai parmi les gens bien guidés, et qu'Allah me promet son Jannah, et que, pour revenir à la situation de la sourate Al-Muzzammil, que même si les gens me critiquent par rapport à mon tawhid, par rapport à mon attachement à la religion, par rapport au fait que je reste et que je prêche et que j'invite vers le droit chemin, les gens me critiquent, me traitent de tous les noms, Allah Rabbul Izzah me demande d'être patient et que « wa l'aqibatu lil » les muttaqin, qu'en finalité Allah accorde toujours son aide aux muttaqin, aux pieux. L'aide d'Allah ne descend pas pour les personnes qui étaient les plus riches, les plus aisées, ou les gens qui étaient les plus nobles, qui avaient le plus de reconnaissance à travers la société. Là où Allah, en finalité, nous voyons à travers l'histoire de notre prophète alayhi salat wa salam, et l'histoire des prophètes alayhi salat wa salam, qu'ils avaient toujours en face d'eux des ennemis plus forts, plus puissants, qui avaient parfois un royaume, et qui avaient parfois beaucoup de richesses, et qui avaient beaucoup de atba, des centaines de milliers de personnes de leur côté. On prend l'exemple de Pharaon, mais qu'en finalité, Allah accorde tout toujours sa vie, son aide, sa nusra aux pieux. Soit l'aide d'Allah intervient dans ce monde, et si ce n'est pas immédiatement de ce monde que la personne quitte ce dunya dans les épreuves, assurément, comme on l'avait dit mardi dernier, l'aide d'Allah et la délivrance se verra au moment, juste avant de mourir. Je dis au moment, mais c'est avant de mourir, les préambules de la mort avec la visite de l'ange de la mort, l'annonce de bonnes nouvelles et une résurrection, et des étapes de l'au-delà qui se passent avec grande facilité. Donc, ce couplet de versets. Maintenant, il est un peu compliqué de démarrer directement le verset numéro, si je le retrouve, c'est quel numéro? Bismillah. Le numéro 14. Il est un peu compliqué de démarrer le 14. Il faut se resituer légèrement dans le contexte de révélation depuis le début de la sourate Al-Muzzammil. La sourate Al-Muzzammil commence par des versets qui rappellent l'importance de la prière de la nuit. Et on parle du début de la Ahd Makki, du début de la période mekkoise, c'est-à-dire une époque où la salah, les cinq prières obligatoires, n'ont pas encore été révélées. On est au début de la révélation, donc on est encore très loin du voyage nocturne où la salah a été révélée. C'est-à-dire qu'au départ, Allah Rabbul Izza a demandé au prophète alayhi salatu wassalam de passer le maximum de temps ou une grande partie de sa nuit en prière. Donc le début, on va dire, les 5, 6 ou 7 premiers versets de la sourate Al-Muzzammil parlent de l'importance du Qiyam al-Layl. Deuxième étape de la sourate Muzzammil, et là on parle vraiment, on entre un peu plus de la spiritualité. Vous voyez que là on a une sourate Makkiya, la compréhension de Asbab et Nuzul, ces constantes de révélation, est tout simplement magnifique. On est dans un contexte où le prophète alayhi salatu wassalam est méprisé, il est insulté, les gens veulent même le tuer, le prophète salam est dans une situation très difficile. Un volume qui est total et qui vient de partout. Et dans cette situation complexe, Allah Azza wa Jal n'envoie pas l'ange Jibril alayhi salam lui venir en aide. Allah n'envoie pas une armée de malaïka ou Allah ne prend pas la décision de faire descendre la guidée généralisée sur tous les gens de Makkah pour qu'ils viennent en aide au prophète alayhi salatu wa salam. Allah Rabbul Izza montre que la guidée est... Le maintien le plus ferme dans le chemin, le droit chemin, donc dans la foi, se trouve dans le lien intime avec Dieu. Je reprends. Dans cette situation complexe, Allah aurait pu envoyer son aide de façon extérieure. L'ange Jibril, l'ange des montagnes ou autre chose, ou la guider pour que les gens, Allah envoie des centaines ou des milliers de personnes qui acceptent l'islam et qui deviennent et qui constituent une armée qui va se mettre autour du prophète alayhi salatu wassalam. Non, Allah montre à l'ensemble de la Ummah que même dans les situations les plus complexes face à l'adversité, la nusra, l'aide et la délivrance viendra de ton cœur. À partir du moment où ton cœur et avec ton Seigneur, et que tu te confies à Allah, et que tu passes tes nuits en adoration, le front prosterné sur le sol, les mains levées à faire des invocations, à faire des doigts, c'est là qu'Allah Azza wa Jal va te venir en aide. Donc, on a les premiers versets de la sourate Al-Muzzammil qui parlent essentiellement de la prière de la nuit. Ensuite, quand on passe au verset 8, 9 et 10, enfin je ne vais pas dire de bêtises, je n'ai pas la numérotation des versets, mais c'est à peu près ça. Hein, quand on passe au verset 8, 9 et 10, Allah Rabbul Izza parle maintenant de « Watabattal ilayhi tabtila ».« Watabattal ilayhi tabtila ». Je retrouve la traduction. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Et dans les anciens audios, on avait expliqué « Watabattal ilayhi tabtila », c'est de faire en sorte que quand tu te consacres à ton Seigneur, tu ne penses qu'à lui. Et les savants disent qu'à partir de ce verset, on comprend l'importance du khushu, de la dévotion dans la salah. Ne te contente pas d'une prière au mu'min où tu vas juste accomplir ce qui t'est demandé, mais recherche la dévotion, la compréhension du gestuel, des paroles, des adhkar, des vers et du Coran, et ressens la présence de ton Seigneur qui est au-dessus de toi, qui t'observe, qui t'entend, qui sait ce qu'il y a de ton cœur, et c'est ce qui nous permet de monter en degré de foi jusqu'à atteindre le fameux degré de Ihsan, le summum de la foi. Donc, Watabattal ilayhi tabtila, c'est que le mu'min consacre son temps, sa pensée, son cœur, et uniquement avec Allah Azza wa Jal, et Allah rappelle que c'est lui, Rabbul Mashriq wal Maghribi, le Seigneur du levant, du couchant, il n'y a point de divinité à part lui. Allah rappelle sa grandeur et il y a juste un verset avant. Allah rappelle également que Inna Nashi'at al-Layli, que le fait de prier la nuit est beaucoup plus profitable pour le mu'min, parce que la nuit, le croyant n'a pas d'autre occupation. Le croyant n'est pas préoccupé ou distrait par une quelconque, par son travail ou par la recherche de la subsistance, mais on se consacre uniquement pour Allah. Ces versets montrent l'importance du tawhid, mais également du fait de se concentrer dans les bonnes œuvres. Et c'est là qu'on va vraiment, développer une spiritualité très forte qui va nous aider nous-mêmes dans notre cheminement vers Allah, mais qui nous permettra de trouver la force spirituelle pour lutter contre n'importe quelle épreuve. Et là, dans la sourate Makkiya, l'épreuve principale, c'est l'oppression et le dhulm qui vient des Quraysh. Donc là, on se situe, on voit un peu mieux comment est-ce que la sourate Muzammil est révélée et quel est l'enchaînement des versets. Allah Azza wa Jal, juste avant ce verset, cite également l'enfer qu'il a promis à ces personnes. Donc, qui défie notre prophète, alayhi salat wa sallam, qui se moque de lui et qui le menace. Et en commentaire, les mufassirin, rahimahumullah, ils disent que voilà donc la sunnah d'Allah, comment est-ce qu'Allah agit avec les oppresseurs. Pour certains oppresseurs, Allah peut décider de les détruire immédiatement. Et dans d'autres situations, et Allah est hakim, Allah est sage dans ses décisions, Allah sait ce qu'il y a de mieux. Et dans certaines situations, donc Allah décide de laisser le zalim, l'oppresseur, faire du mal, prêcher le mal, empêcher les gens d'avancer vers le bien, et ainsi de suite, comme c'était le cas avec le prophète alayhi salat wa salam, où il y a eu quand même 13 années de persécution à Mecca, avec, comme on a dit, des insultes, intimidations, parfois même des sahabas qui ont été tués, torturés. On pense à Soumaya, radiallahu anha, on pense aux souffrances de Bilal ibn Rabah, on pense à toute la famille de Al ou Yasir. Donc, dans certaines situations, Allah peut laisser l'oppresseur faire du mal et essayer d'humilier les croyants. Et, mais seulement, ne pense surtout pas que l'islam est affaibli à cet instant parce que ceux qui se déclarent ennemis de l'islam ont le dessus. Ils ont la royauté, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, les gens les écoutent, mais en aucun cas ça ne veut dire qu'ils sont en train de prendre le dessus, aucunement. Allah peut les laisser dans cette situation jusqu'à ce qu'à un moment donné, Allah retourne totalement la situation et décide de les sévir. Et des fois, nous voyons donc comme dans ce verset que c'est Allah Azza wa Jal qui annonce qu'il y a un enfer, un Jahannam qui a été préparé pour ces personnes. Ibn Kathir, rahimahullah, et d'autres mufassirin disent que c'est là un rappel pour le mu'min, quelle que soit la nature de l'oppression. Il ne faut surtout pas se dire que, je reprends ce que j'ai dit, que les oppresseurs ou les gens qui prêchent le mal, ils ont le dessus. Non. On se dit que soit Allah envoie son aide maintenant, et si ce n'est pas maintenant, Allah a promis à ces personnes un Jahannam. Et les versets parlent également de Wata'am, la nourriture des gens de l'enfer qui va rester accrochée à leur gorge, et ainsi de suite. On va dire des descriptions un petit peu difficiles à lire et entendre. C'est des scènes terribles des châtiments de l'enfer. Mais le mu'min, d'une certaine façon, trouve un réconfort dans le fait que les personnes qui font du mal, peut-être que dans ce dunya, ils ont la royauté et le pouvoir, mais le jour de Qiyama, ce qu'Allah a promis aux Quraysh en termes de châtiment, Allah Rabbul Izzah réserve le même sort à toute personne qui fait le mal. Ainsi donc, dans notre contexte, si des fois, à travers l'actualité, lorsque nous voyons dans certains pays musulmans où il y a un degré d'oppression, où des gens, où des croyants meurent chaque jour et que personne ne peut changer le cours des choses, on fait doua, on essaie de faire ce qu'on peut, mais en finalité, on se dit qu'avant eux, il y avait An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, des sahaba qui ont été persécutés, qui ont été humiliés, qui ont été frappés, et ainsi de suite. Et Allah Azza wa Jal, par la suite, soit il a donné la hidayah à certaines de ces personnes, soit Allah les a détruits. Et de la même façon, nous nous inspirons de l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon, qu'on va essayer de développer dans un instant pour introduire un petit peu le Ashura. Donc on reste avec notre verset. Allah demande au prophète alayhi salat wa salam de se montrer patient et Allah s'engage. Wadharni wal mukadhibin. Wadharni c'était traduit et laisse-moi avec ceux qui crient au mensonge. Allah Rabbul Azza prend la garantie de sévir et de punir, on va dire entre guillemets personnellement, les personnes qui font du tort au prophète alayhi salat wa salam. Nous en venons maintenant à notre verset yawma tarjuful ardu wal jibal. Ce sont des versets qui rappellent le qiyam. Alors comment ça a été traduit? Le jour où la terre et les montagnes trembleront, tandis que les montagnes deviendront comme une dune de sable dispersée. Alors, pourquoi des versets en rapport avec le Qiyama à cet instant? Les Mufassirin, rahimahumullah, expliquent que ça fait partie des promesses d'Allah et ça fait partie des points que le croyant se doit de se rappeler à chaque instant lorsqu'il est dans une situation d'oppression, lorsqu'il est face à une bonne action qu'il peut accomplir et qu'il hésite à faire, ou lorsqu'il est dans une situation d'exposition au péché, se rappeler du fameux Yawm al-Qiyam. Parce que c'est pour cet instant, c'est pour ce moment que nous prions. C'est pour le Qiyam, c'est pour ce moment fatidique que nous lisons le Coran, que nous faisons le Dhikrullah et que nous délaissons l'adultère, que nous délaissons l'argent haram, le riba, que nous faisons attention à ce que nous allons dire et ainsi de suite. C'est pour préparer ce jour que nous passons notre vie dans les bonnes œuvres et que nous nous éloignons totalement de ce qui est haram. Ainsi donc, à chaque fois qu'il y a des versets concernant le Qiyama, description, j'allais dire destruction. C'est vrai que le Qiyama, c'est avant tout destruction de ce dunya, mais là on parle de la description du Qiyama, c'est pour que le mu'min se rappelle. On peut dire wadhkur, et rappelle-toi, et n'oublie jamais qu'il y a un Qiyama. Et ce Qiyama, ce jour des comptes, il y a beaucoup de termes de le Coran qui qualifient le jour de Qiyama, et parfois on a des phrases, des versets qui expliquent quelle sera la particularité de la résurrection. On a entre autres Yawmatu Blasara'ir, le jour où les secrets seront révélés. Là on va savoir vraiment qui étaient les véridiques, qui étaient les sincères, qui étaient les pieux adorateurs d'Allah, des gens qui faisaient des bonnes œuvres par ostentation, Riya Suma'a ou Shuhra. On va connaître qui étaient les hypocrites et on va voir la récompense qu'Allah attribue aux pieux et aux sincères et quel est le châtiment qu'Allah a réservé aux oppresseurs et à ceux qui suivaient leur passion. C'est-à-dire dans le jour de Qiyama, personne ne peut plus cacher quoi que ce soit, car Allah est Malik Yawmidi, le maître du jour de la rétribution, et c'est en ce jour que nous trouvons les récompenses pour nos bonnes actions. En ce jour que nous retrouvons les récompenses pour les efforts, les sacrifices que nous avons faits pour la religion d'Allah, c'est le jour de Qiyama que nous voyons les fruits du contrôle que nous avions sur notre nafs, le fait de rester éloigné du haram. C'est le jour de Qiyama que nous voyons vraiment qu'est-ce que cela nous apporte en termes de lumière et de récompense. Mais c'est également en ce jour que le mu'min voit ce qu'Allah l'a réservé pour sa patience de ce dunya face aux difficultés, aux maladies, aux épreuves. Et c'est également le jour de Qiyama, le jour de la justice et de l'équité, parce qu'Allah c'est le Malik Yawmiddin, où Allah fait preuve d'équité et va juger les oppresseurs et compenser et récompenser les madloumis, les opprimés. Donc c'est le jour le plus important, c'est pour ce moment, cet instant que nous vivons et que nous préparons notre dunya. Hada. Et d'une certaine façon, lorsqu'Allah révèle ces versets, comme on a dit, c'est un encouragement pour le prophète alayhi salat wa salam, mais également pour l'ensemble des croyants qui vont venir jusqu'au Qiyama, c'est-à-dire nous également. Nous faisons partie des personnes à qui le verset est révélé et adressé. La description, on parle de Al-Ard et Al-Jibal. Les savants disent que la terre, c'est l'endroit où, mashallah, où nous vivons, nous posons nos pieds, la terre également source de nourriture avec ce qui pousse ainsi de suite, on a bien compris. Et Al-Jibal, les montagnes, c'est vraiment ce qu'il y a de plus impressionnant autour de nous. Et les Arabes à Mecca, ils avaient des montagnes, il y a beaucoup de montagnes qui ont été cassées, mais les montagnes de Mecca sont magnifiques. Et de Mecca, nous voyons également les montagnes de Taïf qui sont magnifiques. Et par la suite, à Médine, les gens de Médine voient, au Houd, ils voient ainsi de suite. Donc les montagnes restent quelque chose de grandiose, d'impressionnant. Et lorsqu'Allah parle de ces montagnes que le mu'min voit, donc de visu, il les voit tous les jours, de la roche, quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement solide, qui reste insensible aux tempêtes de sable et ainsi de suite, et qu'Allah parle maintenant de ces montagnes qui sont réduites en poussière, et qui redeviendront poussière comme du sable. C'est pour que le croyant réalise que tout ce qui est fort, tout ce qui est costaud, tout ce qui est symbolique, tout ce qui symbolise la force et la puissance de ce dunya, ce n'est strictement rien pour Allah, et que le jour de Qiyama, tous ces symboles seront réduits à néant et deviendront poussière. Et le fait que les montagnes deviennent poussière et que la terre soit aplanie totalement, ça rejoint le verset du 19e juz, le verset ne me revient pas forcément, où Allah Azzawajal rappelle que la terre sera réduite, sera aplanie totalement. Oui, la tara fiha aywajan wa la amta. Où il n'y aura aucun endroit surélevé ni creux. Ce sera une terre totalement égale et aplatie. Ça, ce n'est que le début du Qiyam. Donc déjà, c'est la description de la terre qui sera aplatie et des montagnes qui seront poussières, choque et impressionne le croyant. Il doit se dire que ça, ce n'est que le début. Et que dire des étapes qui vont venir après? Parce que les étapes qui vont venir après cette première vision de la terre de Mahshar, les étapes qui vont venir après seront beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile à supporter lorsque l'enfer sera présenté aux gens et que l'enfer va cracher des boules de feu qui vont tomber sur la terre de Mahshar et que les Anbiya alayhim salatu wassalam vont implorer Allah pour leur propre personne. Dire que les visions de l'au-delà, ce sont des visions extrêmement choquantes et ce qu'Allah nous décrit, c'est les préambules, ce qui va précéder la préparation de la terre du Mahshar et des premières étapes de l'au-delà. Donc, « Yawma tarjufu l'ardu wal-jibal, wa kanat il-jibalu kathiban mahila. » Hada. Justement, le verset, on l'a retrouvé. Qa'an saf-safa la tara fiha iwajan wa la amta bin Kathir rahimahullah dit que dans la surat al-Shu'ara, Allah Rabbul Izzah décrit ce qu'on a dit tout à l'heure, cette terre du Mahshar qui sera égale, et dit que sache que s'il n'y a plus rien qui va subsister comme bien de ce monde ou autre chose, sache que cette terre pour laquelle l'homme a consacré parfois sa vie et pour laquelle l'homme parfois, pour les biens de ce monde, l'homme a sacrifié sa religion, il verra et il réalisera qu'il n'y a plus rien qui reste. Donc ne cherche pas tes trésors, ne cherche pas tes bâtiments, ne cherche pas tout ce que tu as édifié dans ce monde, il n'y aura strictement rien. Donc ça c'est une latifa, c'est un enseignement qui est quand même important lorsqu'on parle du symbolisme de cette terre où il n'y aura rien du tout. C'est également pour que le mu'min réalise que le jour de Qiyama, il n'y a rien qui t'accompagne. Tout comme dans la tombe, il n'y avait rien qui nous accompagnait. Hada. On a ensuite les versets où Allah Azza wa Jal rappelle au Quraysh qu'il leur a envoyé un prophète. Et un prophète qu'il connaissait très bien. Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Nous vous avons envoyé un messager pour être témoin contre vous, de même que nous avions envoyé un messager à Pharaon. Fa'asa fir'auna rasul, fa'akhadnahu akhdan wabila. Pharaon désobéit alors au messager, nous le saisîmes donc rudement. Ibn Kathir rahimahullah, il rapporte le tafsir de Ibn Abbas et de Qatada de Mujahid qui parle de akhdan wabila et akhdan shadida, que Pharaon, on connaît l'histoire de Pharaon, on connaît le royaume de Pharaon, on connaît que l'armée avec laquelle il avait poursuivi Pharaon, qu'il avait poursuivi Moussa alayhi salam ainsi que Haroun alayhi salam ainsi que le Bani Israël, Ibn Kathir cite une armée qui atteignait le million de combattants. Allah a laissé Pharaon et des générations de pharaons, parce qu'il y en a eu plusieurs, régner pendant des siècles et des siècles sur l'Égypte, jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal prenne la décision un jour de les châtier akhdan wabila ay shadida, de les châtier d'une façon exemplaire et subite et d'une façon dont ils ne s'attendaient pas. Et ce verset fait référence, bien sûr, à la fuite de Moussa alayhi salam avec Banu Israël. Et c'était là l'ordre d'Allah Azza wa Jal à l'attention de Moussa alayhi salam de libérer les Banu Israël de l'esclavage de Pharaon. Et ça nous permet maintenant d'introduire un petit peu la notion de Saum, de Muharram. On savait que les Banu Israël ont toujours vécu dans la servitude face à Pharaon. Et c'était un peuple donc dominé et qui n'avait pas la possibilité de prendre leur destin en hommes, ils étaient apeurés et effrayés et sous le joug donc de Pharaon. Et à un moment, Allah Azza wa Jal demande donc à Moussa al-Islam de quitter le royaume d'Égypte et d'amener avec lui les Banu Israël. Et l'histoire est plus ou moins connue. Allah demande à Moussa al-Islam de prendre la direction de la mer. Et arrivé près de la mer, ils se rendent compte que Pharaon les suit avec une armée. Et c'est là qu'on parle de près d'un million de cavaliers, de combattants. Et les Banu Israël étaient apeurés. Et certains ont même demandé à Moussa al-Islam, « Es-tu sûr au prophète de Dieu ?» que c'est à cet endroit qu'Allah t'a demandé de nous amener. Parce qu'ils voyaient l'armée de Pharaon qui se rapprochait, ils voyaient devant eux, il n'y avait que la mer, ils voyaient à droite et à gauche, il y avait des montagnes. C'est-à-dire, ça symbolise vraiment la situation qui est coincée, qui est bloquée. Et dans certains récits, on est toujours d'Ibn Kathir, il explique, il décrit même, enfin, il rapporte ce qui a été décrit, que certains cavaliers parmi les Banu Israël ont essayé d'entrer dans la mer avec leurs chevaux, histoire de voir s'il n'y avait pas une issue. Mais ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'issue, que vraiment c'était la mer, il n'y avait pas de miracle. À cet instant, il n'y avait pas de mu'jiza, de miracle. Donc, ils ont compris que la situation était coincée. Et dans cette situation d'adversité extrême, maintenant imaginez quelqu'un qui prend la responsabilité d'amener des personnes à un endroit en disant que je vous retire de cet endroit où vous êtes opprimé, je vous promets la délivrance, suivez-moi. Et qu'en finalité, les gens ont l'impression que vous les avez amenés vers la mort. Quelle est la pression? Qu'est-ce qu'est la pression qui repose, on peut dire, sur les épaules de Moussa al-Islam, sachant qu'il a également sa famille, ses proches avec lui, et entre autres, son frère Haroun al-Islam, qui a été associé à sa mission. Mais, à aucun moment, à aucun instant, et c'est dans ce genre de situation, entre autres, que nous retrouvons des points communs, subhanallah, entre les Anbiya, et que nous devons prendre Moïse, Moussa al-Islam, comme modèle, parce que Moussa al-Islam est notre prophète aussi. À cet instant, nous voyons cette yaqin, cette conviction de Moussa al-Islam en son Seigneur. Et il dit, je jure que c'est à cet endroit que mon Seigneur m'a demandé de vous amener. C'est-à-dire qu'il n'a pas douté une seconde, un instant du message d'Allah Azza wa Jal. Et il savait que c'était là qu'Allah lui a demandé de venir et qu'il y a un khair et qu'il y a un bien. Et que le fait de suivre les ordres d'Allah Azza wa Jal, ça nous mène toujours vers la guidée et la délivrance, même si les conditions du an-najat, les conditions du succès ne sont pas palpables, ne sont pas visibles. Et on peut transposer ces situations-là, cette histoire de Moussa al-Islam près de la mer, à notre vie, à nous, où des fois, en faisant le choix pour une femme, mashallah, qui décide de s'habiller avec le maximum de pudeur que l'islam préconise, ou qu'un homme décide dans son travail ou dans sa façon de faire avancer sa famille, de garder des principes extrêmement profonds en termes de spiritualité, quitte à se mettre à dos la famille ou beaucoup de gens, mais avoir cette conviction que je suis les recommandations de mon Seigneur, je suis la sunna de mon prophète alayhi salatu wassalam, même si le monde entier me pointe du doigt, je sais que je suis ala sirat mustaqim, je suis bien guidé et c'est dans cette voie que je vais trouver l'acceptation de mon Seigneur. Je suis Moussa alayhi salam près de la mer à chaque fois où je suis dans l'impasse par rapport aux règles de ce dunya, parce que j'ai suivi, subhanallah, avec conviction, les ordres de mon Seigneur. Et à cet instant, on ne va pas développer l'histoire, parce qu'on a dépassé le temps déjà, et c'est là qu'Allah Azza wa Jal, anidrib bi'asa kal-bahr, ordonne à Moussa alayhi salam, l'histoire est connue, de frapper la mer avec son bâton et la mer s'est ouverte et ils ont pu traverser. Et pour que l'aide d'Allah soit complète et totale, et cet événement a eu lieu le 10 Muharram. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wassalam a demandé aux musulmans de jeûner le 10 Muharram parce qu'il avait vu les Yahouds, les personnes de confession juive à Madina. Qui peut me citer, quelqu'un prend la parole, le nom des trois tribus juives qui habitaient à Madina? Quraïda. Oui, ensuite les Banu Nadir. Et les Banu, le dernier, Qaynuqa. On a donc trois tribus, barakallah fik, trois tribus juives qui habitaient à Médina. Et justement, le prophète alayhi salat wa sallam arrivé à Médina, voit les juifs jeûner et il leur a posé la question. Ils ont dit que voilà, c'est par rapport à Moussa alayhi salam qui a obtenu l'aide d'Allah contre Pharaon en ce jour. Le prophète alayhi salat wa sallam va dire aux musulmans que nous, mu'mines, nous avons encore plus de droits sur Moussa alayhi salam. Nous le reconnaissons comme étant un des prophètes d'Allah, nous l'aimons et ça montre l'universalité de l'islam. Nous croyons en sa révélation et il a demandé aux croyants, aux mu'mines, de jeûner le jour de Ashura. Donc en ce jour, pour que l'aide d'Allah soit totale, et justement c'est le tafsir de Akhdan Wabila, qui était traduit comment d'ailleurs, et nous le saisîmes donc rudement, d'une façon terrible. Et on a parlé de près d'un million de personnes qui composaient l'armée de Pharaon, mais au-delà de l'armée de Pharaon, il y avait la famille de Pharaon. Et le mulk, le royaume de Pharaon, se transmettait de père en fils. Allah a décidé de détruire le règne de Pharaon. Pas ce pharaon-là. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là, si quelqu'un là, a le nom en tête. Ramsès 2 ou 3, je ne sais plus. Hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas lu ça. Et ce n'est pas uniquement ce tyran qu'Allah a voulu détruire, mais c'est le règne de tous les pharaons d'Égypte. Et aucun membre de la famille de Pharaon, ni une personne appartenant à son armée, n'a survécu. De quelle façon Allah a ouvert donc la mer pour Moussa alayhi salam et les Banu Israël. Allah aurait pu refermer, demander à Moussa de frapper de nouveau la mer pour que la mer se referme et que enfin il se trouve assez éloigné pour qu'il puisse s'enfuir, mais ça aurait été partie remise, on pourrait dire. L'armée de Pharaon aurait pu les rattraper dans un an, deux ans, et ainsi de suite. Le danger aurait été toujours présent. Allah Azza wa Jal décide que cette mer reste ouverte et Allah montre à l'humanité que par un même sabab, par un même intermédiaire, Allah peut sauver des vies et Allah peut détruire des vies. Allah peut envoyer son aide par un intermédiaire et Allah va utiliser la même entité pour provoquer l'effet inverse. Ce sera synonyme de mort pour les autres. Pharaon voit cette mer ouverte et il essaie de sauver les meubles. Il essaie de garder la tête haute parce qu'il voit que son armée est impressionnée par le miracle de Moïse. Il craint qu'ils vont finir par croire, par accepter la prophétie de Moussa al-Salam. Et il a osé dire à Sayyid ibn Kathir, voyez comment est-ce que la mer s'ouvre devant mes pieds. Ça c'est l'audace, c'était l'orgueil de Pharaon qui a même prétendu le Rububiyya. Il a même dit que je suis le Seigneur des mondes. Et donc, il a décidé de montrer l'exemple et d'avancer. Et cette mer qui s'était ouverte les a accueillis. Et c'est là que les Banu Israël étaient un petit peu déçus d'une certaine façon. Ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Ils pensaient qu'ils venaient d'être sauvés par Allah, mais ils se rendent compte que les ennemis prennent le même chemin. Donc, en finalité, c'est comme si qu'ils avançaient dans un même sens et qu'ils allaient les rattraper. Allah décrétait que l'intégralité jusqu'au dernier cavalier était entré dans cette mer qui était ouverte. Et quand il n'y avait plus personne, Allah demandait à Moussa al-Salam de frapper la mer et la mer s'est refermée et l'intégralité du royaume, des héritiers, de la famille de Pharaon, de son armée, ils ont donc péri noyés à cet instant. Ça, c'était le Akhdan Wabila quand Allah a décidé de détruire ce zalim. Et les contemporains parmi les Mufassirines disent que cet exemple, cette histoire doit être pour nous un exemple, un modèle. À chaque fois que nous voyons des tyrans, des personnes qui font du tort au Ahlul Tawhid, à ceux qui ont la foi, ben, n'oubliez pas comment Allah détruit le plus grand zalim et Allah est capable de détruire n'importe quelle personne, d'autant plus que Pharaon c'était celui qui avait atteint le summum en termes de tyrannie et de tort causé au Ahlul Tawhid. Je pense que, comme on a largement dépassé le temps, on peut s'arrêter à là, Inch'Allah, en espérant que cette petite introduction sur la notion de prière de la nuit qui nous aide dans toutes les situations difficiles, ça nous sera profitable, Inch'Allah, et de réaliser que on n'a pas forcément besoin d'attendre une aide qui est exceptionnelle, impressionnante qui vient des cieux. Des fois, Allah peut envoyer cette aide comme Allah l'a envoyé à Taïf, au prophète alayhi salat wa sallam, proposition d'aide où Allah a envoyé cette aide qui était impressionnante à Badr, d'accord, et également à, si je ne me trompe pas, à Hunayn aussi, si je ne dis pas de bêtises, à Hunayn, où Allah veut envoyer des anges également. Non, Allah peut décider d'envoyer une aide extérieure, mais la plus grande nusra, c'est celle qui va venir de ton propre cœur, d'où les premiers versets de la surat Al-Muzzammil qui rappellent le croyant l'importance de la prière de la nuit. Et le fameux Wattab de se consacrer uniquement à Allah, de développer une relation puissante entre notre cœur et notre Seigneur pour que vraiment on croit en Allah, on s'accroche à ses promesses et on est conscient que de toute façon, quel que soit le mal que ces gens nous font, Allah a parlé d'un Jahannam qui est cité dans la sourate Muzzammil et Allah a parlé d'une fin du monde et c'est les versets du Qiyama où les choses les plus fortes et plus puissantes sont réduites en poussière et le mu'min trouvera l'aide d'Allah, trouvera la justice, trouvera la délivrance, trouvera les récompenses et trouvera la rétribution pour les bonnes œuvres et également la rétribution pour l'abandon des péchés et pour la patience face aux difficultés. Donc ce verset également doit Inch'Allah nous sera profitable à partir de cet instant. Et nous avons vu donc le verset concernant le fait qu'Allah a envoyé au Quraysh Muhammad alayhi salat wa sallam, comme il avait envoyé Moussa au peuple de Pharaon qui ne l'avait pas cru et qu'Allah les a détruits de la façon dont que nous venons de dire. Et Ibn Kathir, on conclut, il dit de la même façon, Allah demande au Quraysh, attention, Pharaon connaissait Moussa, mais il n'a pas voulu croire en lui. Vous, Quraysh, vous connaissez parfaitement cet homme, Muhammad alayhi salat wa salam. Attention à ce que vous êtes en train de faire quand vous n'acceptez pas sa mission et que vous essayez de lui causer du tort. Allah peut vous détruire comme il a détruit Pharaon lorsque il a fait du mal, il a essayé de faire du mal à Moussa alayhi salam. Et en commentaire, on va dire décalé des contemporains, ils nous disent que de même qu'Allah demande au Quraysh de se rappeler de l'importance de ce bienfait que d'avoir cet homme comme prophète, ben il en est de même pour nous. Nous, musulmans, nous devons considérer à sa juste valeur, mais nous ne le ferons jamais suffisamment, nous devons essayer de considérer à sa juste valeur ce prophète qui est le plus grand bienfait qu'Allah a pu nous accorder avec le Coran, d'avoir Mohammed alayhi salat wa sallam comme prophète, et de nous montrer donc digne d'appartenir à sa umma, en suivant sa sunna, en vivant comme le prophète alayhi salat wa sallam nous a demandé de vivre, en pensant comme le prophète alayhi salat wa sallam nous a demandé de penser, en développant cet amour pour Allah dans notre cœur comme le prophète alayhi salat wa sallam l'avait fait, et de cette façon nous serons inshallah sur le droit chemin. Hada wa ma tawfiqi illa billah subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Ça concernait le tafsir de la sourate Al-Muzzammil. Concernant le jeûne du 10 Muharram, d'une certaine façon on vous l'a présenté, que les Quraysh à l'époque de l'Jahiliya, de l'ignorance, ils donnaient l'importance également au jeûne de ce jour. Les gens du livre, les Yahoud, ils le jeûnaient. Le prophète alayhi salat wa salam a conseillé aux croyants de le faire, et dans certains récits il est dit que c'est le jour où Allah envoyait son aide également à d'autres prophètes que Moussa alayhi salam, entre autres à Yunus alayhi salam, et il a accordé son pardon à d'autres personnes également, à Adam alayhi salam et à d'autres personnes. Alors en termes d'héritage des prophéties, ben c'est quelque chose de très puissant, de très fort, que de faire revivre cette sunna qui remonte au début donc de l'islam, avant même la révélation du Shahr Ramadan, qui me rappelle quand est-ce que le mois de Ramadan a été révélé. En l'an 2 de l'Hégire. Alors que le prophète alayhi salat wa sallam, pendant ses deux premières années arrivé à Madina, il avait déjà demandé aux croyants de jeûner. Et tellement il donnait de l'importance que même les enfants jeûnaient. Et dans cet hadith, il est stipulé que les mamans amenaient leurs enfants de la masjid Nabawi, ils leur fabriquaient des petits jouets avec de la laine, on va dire des pelotes de laine, pour qu'ils s'amusent et pour qu'ils oublient entre guillemets la faim, et afin qu'ils jeûnent. Donc en commentaire, les muhadithines disent que jeûner ce jour est important pour le mu'min, c'est une sunna. Et c'est également, on va dire, un repère spirituel dans l'éducation des enfants. Le fait de demander aux enfants de jeûner ce jour, il ne faut pas juste lui dire que la 7e haram, il faut jeûner, il faut garder carême. Ce n'est pas suffisant. On leur demande de jeûner, mais en plus, on explique pourquoi on jeûne. Parce que c'est un jour tellement important où un de nos prophètes, Moïse, Moussa al-Islam, a obtenu l'aide d'Allah et raconté l'histoire pour que à chaque 10 Muharram de leur vie, ils se souviennent que c'était un jour où Allah envoyait son aide à un des prophètes les plus opprimés de l'histoire des prophéties. Et de cette façon, l'enfant grandit avec ce repère que Allah envoie son aide. Quelle que soit la situation, je peux obtenir l'aide d'Allah. Si dès l'enfance, 5 ans, 6 ans, enfin 5 ans, peut-être c'est un peu tôt, 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'enfant jeûne tous les ans, le 10 Muharram, et il se rappelle à chaque fois que c'est un moment où Allah a envoyé son aide, mais il va l'intégrer ça. Il va garder ça dans sa construction spirituelle, le fait de savoir qu'Allah vient en aide aux personnes qui sont en difficulté. Donc, au-delà du fait de demander aux enfants et aux plus jeunes et à un peu tout le monde de jeûner, c'est également de rapporter l'histoire pour que ce jeûne ait vraiment un sens. En termes de récompense, et c'est là que j'allais presque dire qu'on se trousse les manches, parce que là, on se frotte les mains, ça devient très intéressant. Et ça découle de la générosité d'Allah Azza wa Jal, de sa clémence. An-Nabi alayhi salat wa salam avait été questionné. Anna rajulan sa'ala an-Nabi alayhi salat wa salam an siyam Ashura. Un homme avait demandé au Prophète, qu'en est-il du jeûne de Ashura? Le Prophète a dit que j'ai espoir qu'Allah pardonne les péchés de l'année écoulée. Alors, nous savons que le Ashura, c'est le mois de Muharram, donc c'est le premier mois donc, de la nouvelle année. Et donc, ce sont les péchés de l'année écoulée qui peuvent être pardonnés par Allah Azza wa Jal. Hadith rapporté par Muslim. Et en commentaire, les muhadithim disent que imaginez ce croyant qui, toute sa vie, mashallah, depuis qu'il est baligh jusqu'à sa mort, il n'a jamais raté le jeûne de Ashura, subhanallah. Ça veut dire que c'est presque les péchés de toute sa vie, et bien sûr, le pardon des péchés, l'expiation des fautes promises pour n'importe quelle bonne action accomplie, les savants disent que ça concerne toujours les petits péchés. Parce que les péchés, les gunak, les kaba'ir al-dhunub, nécessitent un tawbatun nasuha, et ça, on a eu l'occasion d'en parler, le repentir sincère avec les conditions, les remords, le fait de ne plus jamais recommencer, et ainsi de suite, d'accord? Mais les savants disent qu'en fait, ce qui est le plus lourd en conséquence pour l'être humain, ce sont les petits péchés, c'est-à-dire les péchés qu'on cumule au quotidien et pour lesquels on oublie de porter, on ne porte pas attention, on oublie même de demander tawbah parce que c'est devenu quelque chose de tellement commun, tellement banal, on ne se rend même plus compte qu'on accomplit ce péché au quotidien. Et le fait de ne pas demander pardon pour ces péchés, on risque de nous retrouver avec des montagnes de sayyi'at, de péchés le jour de Qiyamah, et ce serait là une catastrophe. Et donc, dans sa clémence et le fait qu'Allah connaisse, il connaît que l'être humain est souvent dans l'insouciance, il oublie, Allah nous accorde ce genre de bonnes actions qui nous permet de trouver l'expiation de nos fautes, donc des petits péchés. Et donc, celui qui jeûne Ashura tout le temps, mashallah, c'est tous les ans ses péchés qui sont effacés par Allah. Après, si on veut développer la notion d'expiation des fautes, bien sûr, ce sont les péchés que l'homme accomplit par inadvertance ou qu'il le fait au quotidien. Il ne s'agit pas, attention, du péché prémédité. Du péché prémédité. Genre, à La Réunion, le Ashura, ce sera dimanche, d'accord? On a dit à Métropole, c'est demain samedi. Imaginez que je décide demain, moi et Hudhaifa, mais bon, ça va jamais se faire, Inch'Allah. Je dis, Hudhaifa, on profite demain, c'est le dernier jour avant Ashura, on va aller en boîte de nuit, on va aller faire telle chose, on va aller faire tel péché, et ainsi de suite. Et de toute façon, dimanche, on jeûne Ashura, les péchés seront pardonnés. Alors déjà, là, on est en train de parler de péchés qui sont beaucoup plus graves. Et Allah Azza wa Jal connaît la sincérité de chaque personne. Quand quelqu'un demande pardon pour un péché, il faut que le cœur soit présent et que la personne arrive à regretter. Donc ce qu'on prémédite pour ensuite demander pardon, ben, on ne trompera jamais notre Seigneur. D'accord? Quand deux personnes se mettent d'accord pour ce genre de plan machiavélique, ben, ils ne se trompent pas entre eux, ils connaissent leur intention. D'accord? Et encore moins, on peut tromper notre Seigneur et Allah connaît la sincérité de chaque personne. Donc, ce qui attire notre attention et ce qui doit vraiment nous mobiliser pour jeûner en ce jour, c'est au-delà, hein, bien sûr, de l'amour pour le prophète alayhi salat wa salam, et pour Moussa alayhi salam, c'est le pardon, l'expiation des péchés d'une année, et ça n'a pas de prix. Ça, franchement, ça n'a pas de prix, et on a grandement besoin de ça. Imaginez que il nous est prédestiné de mourir dans une semaine, dans 10 jours, dans un mois, subhanallah, et qu'on a eu une année de péché pardonné, imaginez comment est-ce que ça va nous soulager le jour de Qiyamah. Donc on ne peut pas se permettre de rater une telle occasion. Nous demandons à notre Seigneur de nous donner tawfiq, de nous accepter pour jeûner, inshallah, le jour de Ashura cette année. Maintenant, la façon d'accomplir le jeûne, je pense que ce sont des masa'il qui sont très clairs. Il est sunnah de jeûner le 9 et le 10, ou alors le 10 et le 11. Certains pieux prédécesseurs avaient l'habitude de jeûner le 9, le 10 et le 11. Pourquoi est-ce qu'ils jeûnaient 3 jours? Parce qu'ils craignaient, j'ai plus les textes sous les yeux, mais j'avais le nom de ces pieux prédécesseurs, ils craignaient que au cas où il y avait erreur dans la vision de la lune de Muharram, ils ne voulaient surtout pas prendre le risque de passer à côté du jeûne du 10 Muharram. Donc, ils prenaient une marge de crainte qu'en fait, on n'avait pas vu la lune et que le 10, c'est en fait le 9, qu'ils n'ont pas jeûné le 9. Donc, pour être sûr d'avoir le 10 Muharram, ils faisaient le 9, le 10 et le 11. C'est ce que je conseille également, s'il est possible. Et là, je parle pour la réunion de jeûner. Donc, demain, samedi, parce que le Prophète avait fait l'intention de jeûner le 9 et le 10. C'est pour ça que beaucoup de savants disent que si on doit combiner deux jeûnes, 9 et 10, c'est mieux que 10 et 11. Donc, ce qui serait bien, c'est de jeûner demain, samedi, et bien sûr, dimanche, c'est le 10 Muharram, et d'enchaîner lundi, pourquoi pas, parce que lundi, il est de toute façon sunnah de jeûner Yom al-Ithnain le lundi. Après, maintenant, bon, c'est une autre vision, hein. Il faut savoir que, on va dire, plus de la moitié de la Ummah ou trois quarts de la Ummah, ils considèrent que le 10 Muharram, ce sera samedi. Donc, d'une certaine façon, si on veut prendre nos précautions, comme certains pieux prédécesseurs, je conseille fortement de jeûner également, de jeûner samedi, hein, d'accord? En se disant que, imaginez que, voilà, que c'était eux qui avaient la bonne vision de la lune ou autre chose, sans rentrer dans les débats concernant une vision ou pour la Oumma ou non. Mais voilà, conseil, franchement, c'est de jeûner samedi et dimanche et idéalement de combiner avec le jeûne du lundi. Maintenant, une question qui peut se poser, et je peux comprendre, même si, je ne sais pas il y a combien de dames qui nous écoutent, mais je peux comprendre qu'une dame se dise que, imaginez qu'une femme ait l'intention de jeûner, mais que c'est une période où elle ne peut pas jeûner, tout comme elle ne peut pas prier. Ben, vous savez, Allah Azza wa Jal est tellement clément et miséricordieux qu'il est capable de nous accorder les récompenses pour quelque chose que nous n'avons pas accompli par rapport à un élément extérieur, indépendant de notre volonté. Ce n'est pas une question de mauvaise volonté, c'est que ce n'était pas possible. Et gardons confiance, gardons espoir. C'est la même chose pour Laylatul Qadr, nuit du destin, les nuits impaires plutôt de la dernière décade. Se dire que l'intention est pure et sincère, les efforts auraient été accomplis si c'était possible. Donc, s'en remettre à la clémence d'Allah qui est capable de nous rétribuer uniquement pour la bonne intention. Qu'Allah nous accepte donc pour jeûner le Ashura de cette année. Jazakumullah khairan.